Bien, je t'explique le plan. Flirte avec eux, danse, monte sur le bar, c'est tout. Surtout, regarde pas la caméra. En place !
Et caméra !
Musique ! Action !
Salut les mecs !
Coupez ! Homme numéro 3, je vois ton érection.
Et si on terminait cette série par une mise en abîme, celle du cinéaste au cinéma, de Buster Keaton, le caméraman, ou Fabelmans de Steven Spielberg, et son trauma familial qui façonnera sa carrière. Entre les deux, le cinéaste en crise d'inspiration, 8,5 Fellini, le plus mauvais de tous les temps, Ed Wood, le malchanceux Terry Gilliam, Lost in La Mancha, l'autarcique Nanni Moretti, le dépressif Almodovar, Douleur et gloire, et bien sûr Truffaut dans La nuit américaine sur les péripéties d'un tournage. Des autoportraits pas toujours flatteurs d'ailleurs sur le travail d'un cinéaste et sur les affres de la création. Alors quelle vision ces femmes et ces hommes donnent-ils de leur métier et comment se racontent-ils à travers d'autres ? J'ai demandé à deux réalisateurs français de décrypter ces métafilms. Lui, Michel Hazanavicius, a pas mal réfléchi sur la question et dans trois de ses films. Avant de le retrouver, c'est avec elle que je vais ouvrir cet épisode. Rebecca Zlotowski, réalisatrice notamment de Belle Épine, Grand Central et plus récemment Les Enfants des Autres. Elle a aussi évoqué le cinéma dans son long métrage Planétarium, un film pris dans le tourbillon de l'histoire. Rebecca Zlotowski et sa pensée si originale, je la retrouve dans son bureau parisien. Est-ce que c'est un métier, cinéaste ?
Oui, c'est un métier qui, enfin, ça l'est devenu pour moi parce que j'en vis, puisque c'est ce qui me fait vivre financièrement et puis émotionnellement, psychiquement. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est assez intrigant parce que il nécessite de ne savoir rien faire, à part parler ou désirer ou regarder.
Très majoritairement, dans les films sur le cinéma ou les cinéastes, ce sont des hommes. Donc la capacité d'identification est plus compliquée, non ? Ou pas ?
Bah alors, dans mon cas, pas trop, parce que comme absolument tous les métiers étaient exercés par des hommes, toutes les professions, en fait, un peu techniques, tout ça, ou intéressantes, ou glorieuses, ou puissantes, étaient incarnées par des hommes pendant très longtemps. Donc nous, j'allais dire, nous les filles, on avait de la chance d'une certaine manière, c'était que on pouvait se projeter, s'identifier aux hommes extrêmement facilement, puisque c'était tout ce qu'on nous proposait. Donc, je veux dire, le cerveau est bien fait. Moi, je me suis autant projetée dans Truffaut dans La nuit américaine que dans les films de Sauté. Alors, je me projetais dans les métiers des hommes, je me projetais dans les hommes. Mais j'avais cette chance qui était que j'étais pas un homme. Donc, je pouvais aussi imaginer qu'une femme pouvait avoir un métier. Puis, j'étais entourée de femmes qui avaient des métiers.
Oh, tu sais, je vais tout le temps d'une ville à l'autre pour présenter le film. Et je rencontre plein de gens. Et souvent, le soir, je me retrouve seule dans une chambre d'hôtel. Alors parfois, j'ai des aventures. Mais c'est toujours triste. Et bref, un peu bête.
Les rendez-vous d'Anna de Chantal Akerman, c'est votre premier choix, sur une cinéaste qui ne tourne pas, mais entre deux films, en tournée.
C'est un film que j'ai découvert vraiment tardivement. Et ça a été un très grand choc. Affectif, esthétique. Et de contenu. Je me suis dit, tiens, voilà un film qui s'adresse. Peut-être qu'il fallait que je sois devenue cinéaste ou que ce soit devenu mon métier. Quand vous disiez ce que c'est un métier, c'est un métier dans l'accumulation. On n'est pas cinéaste quand on a fait un film, on le devient quand ça fait une dizaine d'années, qu'on a fait 4, 5, 6, j'en sais rien. Je me suis dit ça, moi. Et voilà le film d'Akerman qui raconte un entre-deux. Comme très souvent les films avec des cinéastes, on ne raconte pas le moment du tournage, parce que c'est une vraie question. Est-ce que c'est le moment le plus intéressant, le moment du tournage ? C'est certainement le moment le plus excitant, en termes d'adrénaline, peut-être que visuellement, peut-être que c'est les Américains qui se sont saisis des moments du tournage. Mais ils le racontent rarement du point de vue des réalisateurs, ouais. Et plus du point de vue des producteurs.
Ça c'est un moment collectif.
Très collectif. Mmh. Alors qu'en vérité, la grande activité du cinéaste, c'est une activité solitaire. Et si je vous disais que ce film m'avait autant ému est renversé quand je l'ai vu, c'est parce que je ressens non seulement bon, ce dont elle parle dans le film, qui est une certaine dette qu'une cinéaste peut avoir avec son travail, c'est-à-dire ça nous coûte quelque chose. Ça coûte un peu de solitude, ça coûte peut-être d'avoir une vie de famille. Le film entier parle de cette femme qui n'a pas d'enfant. Alors on la questionne souvent, mais c'est quand même pour moi le grand sujet du film.
J'ai vu le film, je la vois arriver à l'hôtel, découvrir sa chambre, et j'ai pensé à vous. Je me dis, tiens, quand Rebecca est en tournée, comment ça se passe? Elle est toute seule en train, elle arrive dans sa chambre. C'est une grande solitude en fait.
C'est vous qui venez présenter le film ce soir au Roxy?
Oui.
C'est vous la réalisatrice? On dit comme cela, n'est-ce pas? Cela doit être passionnant comme métier.
Est-ce qu'il y a le téléphone dans la chambre?
Oui, bien sûr.
Bon, d'abord, c'est une vie très privilégiée, c'est une vie formidable. C'est une vie dans laquelle... Mais non, mais il faut le dire, parce que ça fait partie aussi presque de la solitude. C'est-à-dire qu'une solitude, elle est profonde quand on sait qu'en plus, on vit une vie souhaitable, quoi. Une vie choisie. Et puis, il y a des moments de solitude désirés. Et des moments de solitude qui vont fabriquer le prochain film. Et d'une certaine manière, Ackerman, elle va filmer la vie de cette cinéaste, pas dans l'idée qu'on s'en fait d'une excitation, d'une ronde de rencontres, d'un tourbillon de libido, de sexualité, de plaisir, de fan, de... Non, elle la filme comme elle filme Delphine Seyrig dans sa cuisine, avec la même longueur quasi en temps réel des plans, et la même solitude et ce que peut coûter ces tâches qui sont accomplies par une femme qui est au travail, quoi. Et j'ai envie de dire, c'est pour ça que votre sujet est important. Dans tous les métiers, le métier qu'on fait nous déforme. Quand on fait un métier physique, notre métier nous déforme, nous donne soit mal au dos, soit mal aux jambes quand on est debout. Quand on est danseur, à la fin d'une vie, d'une carrière de danseur, on n'a pas le même corps. Eh bien, c'est pareil quand on est cinéaste. À la fin d'une carrière de cinéaste, on n'a pas le même cœur. Eh bien oui, je crois que le métier de cinéaste déforme. Et pas dans le bon sens, les gens.
Une autre comédienne a été légèrement meilleure qu'elle aux essais, et le film s'est fait sans Virginie. Mais je suis resté longtemps troublé par les confidences de la jeune femme. D'autant que je l'ai croisée par hasard 2 ans après.
Virginie ?
Elle m'a considéré froidement et m'a accusé de l'avoir Bonjour. Profondément traumatisée.
Content de te voir.
D'où venait ce changement total d'attitude ?
Tu vis dans le quartier ?
Je suis pas du tout au passé.
Au moment des essais, cette jeune femme m'avait-elle raconté les salades pour obtenir le rôle? Depuis que je faisais du cinéma, j'avais été en partie déniaisé à propos des dires et états d'âme de presque tous les comédiens. Mais j'étais certain qu'à l'époque, Virginie m'avait dit vrai. Ses confidences m'ont alors donné l'idée de faire un petit film plus ou moins expérimental sur les rapports entre l'interdit et la jouissance.
Lui, Jean-Claude Brissot, se raconte dans ce film les anges exterminateurs à travers son double à l'écran, François, cinéaste. En 2005, soit 1 an avant ce film, Brissot a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende pour le harcèlement de 2 jeunes actrices lors du casting de son film « Chose secrète ». Il va donc construire ce nouveau film sur l'exploration du désir féminin à partir de sa propre expérience à la frontière de la justification et de la fiction. Jean-Claude Brissot a été le prof de cinéma de Rebecca Zlotowski à la FEMIS.
Le moment où intervient le film, c'est un homme qui écrit avec une sincérité troublante de candeur et parfois embarrassante de candeur. Il faut quand même le dire, un plaidoyer pro domo qui va commenter la condamnation dont il a été victime très peu de temps avant, et qui commente, et c'est pour ça que le film est une espèce de vertige métaphysique sur sa propre activité, c'est qu'il documente à son avantage, avec à la première personne qui est la sienne, le tournage de Choses secrètes, le casting de Choses secrètes, donc le film d'avant, sur lequel, et pas que, puisque je crois qu'il y a eu aussi beaucoup d'autres femmes qui ont été très blessées par la manière de travailler de Jean-Claude Brissot, et c'était tout à fait légitime qu'il en soit condamné, mais en tous les cas, il fait ce film-là pour parler. Et il fait ce film-là pour parler avec les outils qui sont les siens, qui sont les outils du cinéma. Quand je repense à ce film, je vous en parlais parce que je me disais c'est impossible de parler du métier de cinéaste et surtout c'est tellement passionnant dans le moment qu'on traverse, qui est le moment politique d'une prise de conscience collective de la violence, de la prédation qu'il peut y avoir sur un plateau. avant le plateau et après. Quelle est cette zone-là dans laquelle il peut y avoir et le désir pour des actrices ou des acteurs de faire partie d'un projet et de travailler? Et quel est le positionnement d'un metteur en scène qui pourrait en abuser, et qui manifestement en a abusé puisqu'il a été condamné? En tous les cas, voilà. Voyons ce film avec la bouleversante sincérité d'un cinéaste qui réellement semble vous dire « voilà le monde tel que je le vois ». Il est commentable de plein d'endroits. Voilà, c'est un homme qui est cinéaste, il vit avec une femme, il est dans une vie conjugale, ils n'ont pas d'enfants, et il veut faire un film sur le mystère qui émerge sur le visage des femmes, mais évidemment tout converge vers leur sexe. Mmh. Qu'est-ce qui les mène au plaisir? Qu'est-ce qui les mène à l'orgasme?
Regarde-moi droit dans les yeux. Qu'est-ce que tu cherches au juste?
Comprendre ce qui se passe dans leur tête. Les observer dans le plaisir, y compris quand elles simulent. J'écris ensuite un script à partir de ce qu'elle me raconte et faudra styliser pour le grand écran.
J'ai la sensation en tant que spectatrice aujourd'hui, et spectatrice très alerte sur ces sujets-là, de vraiment voir quelqu'un qui nous raconte au premier degré quel est son travail. De rencontrer des femmes, de leur dire voilà quel est mon mystère, voilà quelle est ma question de film. Mmh. On peut la trouver risible, on peut la trouver grotesque, on peut la trouver misogyne, on peut la trouver enfantine, mais c'est sa question. Il propose à des femmes d'entrer dans le sujet ou pas. La plupart disent non. Il y a des scènes comiques dans le film qui sont super drôles, avec vraiment des actrices qui se foutent de sa gueule, quoi, qui explosent de rire. Certaines ont peur, certaines sont absolument pas d'accord, certaines ne vont pas laisser rentrer. Et puis celles qui y vont sont celles qui mettent en jeu un danger, voilà, qui sont soit attirées par ce danger pour des raisons que lui, cinéaste, quand il écrit leur monologue, il leur donne beaucoup la parole dans le film, mais ce sont des monologues écrits par lui. Donc il y a une forme de, comment dire, de pilotage de la psyché féminine dans le film, qui évidemment, moi qui regarde le film, je vois bien le jeu, comme on le dirait, d'une serrure entre la vérité de ce que peuvent ressentir ces actrices, ou comme moi je les aurais filmées, ou comme moi je les aurais imaginées, ou comme moi j'aurais imaginé ce que ça me provoquerait, moi, de me mettre à me masturber devant un metteur en scène. Et lui, l'idée qu'il s'en fait, c'est-à-dire utilisant, prenant pour argent comptant son propre, je crois, désir et son propre fantasme.
Vous savez, je vous pose toutes ces questions parce que vous me semblez être une professionnelle du sexe intelligente. Sincère.
Sincère. Les comédiens, on est tous des putes pour décrocher le rôle dont on a envie. Vous êtes demandé pourquoi les filles faisaient ces essais-là avec vous? Vous avez conscience du rôle que vous jouez?
Parce que je joue un rôle.
Vous n'êtes pas neutre.
C'est-à-dire?
Vous n'êtes pas un minet. Vous êtes un des rares à nous écouter. Vous êtes calme, sûr de vous, du moins en apparence. Sans vous en rendre compte, vous dégagez un charme certain, tout en gardant un côté enfant.
Ah oui.
Arrêtez d'être bête comme ça. Avec vous, il y a quelque chose en plus. Sans vous en rendre compte, vous renvoyez à l'image du père.
Mais il a le beau rôle quand même. Hein.
Oui.
Il est un peu chevalier blanc, il est un peu...
Ouais, évidemment le beau rôle, évidemment un substitut paternel. Ouais. On tombe amoureux à la fin de lui, il s'en était pas rendu compte. Il regarde les femmes avec une modestie, une distance jamais franchie. Il n'a fait que mettre en scène son propre fantasme. Mais est-ce que moi je fais différemment? Alors il se trouve que je suis attentive à pas blesser. Mais ça fait partie de ce qu'est notre métier, mettre en scène son propre fantasme. J'aurais adoré que Jean-Claude Brissot n'ait pas été condamné. J'aurais adoré que ce soit pas un homme abusif pour pouvoir aimer son film comme j'ai envie de l'aimer. Je lui en veux d'avoir été un homme qui a abusé et d'avoir un homme qui a été condamné. Parce que j'aurais aimé l'aimer davantage.
Un autre choix décalé de Rebecca Zlotowski, La vie de famille de Jacques Doyon, avec Samy Frey et Mara Goyet, par parenthèse la propre fille du scénariste de ce film, Jean-François Goyet. Un père divorcé retrouve une semaine sur deux sa fille Élise. Pendant ce voyage en voiture et pour communiquer avec elle, il va se servir de sa caméra et s'amuser à être le cinéaste du film qu'elle fabrique. Une façon de se parler par caméra interposée, du cinéma vérité.
Maintenant, je vais te montrer ce que j'ai tourné ce matin pendant que tu dormais. Voilà. Tu vois la différence entre les deux?
Mais ce que t'as tourné ce matin, c'est pas dans le scénario.
Non, mais ton scénario m'emmerde. Mais ça, le gros plan de toi que j'ai fait en douce, ça me touche. Alors, faire les crétins avec les serveuses, ça m'intéresse pas du tout. J'ai téléphoné ni à Mara, ni à mon cabinet. Mon boulot, je le rate avec bravoure, j'en ai du plaisir. Alors ton angoisse à propos de l'école, je trouve ça tout petit.
Dans l'incarnation par Samy Frey, on reconnaît d'ailleurs la prosodie de Doyon, dont chacun sait que c'est impossible de l'entendre parler. et qui vous amène presque par perversité, une perversité consentie par l'interlocuteur, mais à vous rapprocher de lui. C'est-à-dire que c'est un mec qui parle tellement bas, il est tellement charmant, on a envie de dire « Pardon, quoi ?» et on se rapproche. Là, je me rapproche de Christine de Masson. Et donc voilà, et Samy Frey, pareil, c'est quasiment dit dans le film. À un moment, sa fille, c'est pas sa fille, l'une de ses anciennes maîtresses ou une femme avec qui il a peut-être une possibilité, lui dit « Tu parles vraiment de plus en plus bas.
Oui.
On va finir par plus t'entendre. » Samy Frey, c'est la meilleure incarnation, sa meilleure impersonation, je sais pas comment disent les Américains, mais une imitation parfaite, tout en gardant évidemment l'idiosyncrasie folle de Samy Frey. Oui. Il joue ce cinéaste dont on ne saura pas qu'il est cinéaste, mais c'est évident qu'il est cinéaste et qu'il a la possibilité de prendre 4 jours de vacances quand il veut. Parce que c'est ça le métier. Attendez, c'est-à-dire que voilà un homme qui ne va pas au travail. Voilà ce que c'est que d'être cinéaste. C'est un moment où il peut avoir pendant 3-4 jours le désir de partir dans sa décapotable avec sa fille en Espagne, à Madrid, pour lui montrer le Prado.
On va essayer de donner sur cette vidéo une image pas trop décevante de nous deux. Moi, pas encore trop Décati, et toi, pas encore trop femme. Une image de nous deux qui pourra nous plaire pour plus tard. Et on essaie de ne pas se tourner le dos.
Tu veux effacer le film?
Tu m'écoutes pas, hein? J'ai pas dit ça.
Je m'en fous du film. Tu peux l'effacer.
Certainement pas. Il y a là-dedans des images de toi que j'aime énormément.
J'aime pas jouer dans tes scènes sentimentales. Je suis pas d'accord. Depuis le début, t'es pas comme d'habitude. Je te dirai plus rien. Je te cacherai toujours mes sentiments.
Doyon se donne le super beau rôle aussi, même...
Comme par hasard. C'est fou. Les cinéastes se donnent souvent un beau rôle.
Oui.
Et Chantal Akerman, mais elle s'est pas donné le beau rôle, non. Quand j'ai fait Belle Épine, je vois très bien. Léa Seydoux était l'actrice principale de Belle Épine. Et je me souviens que c'était... Je sais pas, il y avait comme un désir. C'est pas de la flagellation, mais il y a le désir vraiment de pas nous rendre sympathiques. Souvent, une femme qui se met en scène dans ses films ne se rend pas sympathique. C'est étrange. Hein. Alors maintenant, j'essaye de changer. Je travaille avec Virginie Efira, qui est la femme la plus sympathique au monde, qui est l'actrice la plus... Voilà.
On pourrait vous dire, comme double, excusez-moi, mais c'est pas mal, quoi, effectivement.
Ah bah, c'est pas mon double, c'est un fantasme, c'est un rêve. Mais Léa Seydoux aussi.
Oui.
Sauf que c'est aussi ce que je lui ai demandé, c'est ce qu'on demande. C'est un moment de nos vies où on est suffisamment amoureux de soi pour pouvoir se laisser aimer et aimer... et se rendre aimable à l'écran.
Avant de commencer un tournage, je désire surtout faire un film qui sera beau. Dès que les premiers ennuis surgissent, je dois réduire mon ambition et je me prends à espérer simplement qu'on arrivera à terminer le film. Vers le milieu du tournage, je fais un examen de conscience et je me dis « Tu aurais pu travailler mieux, tu aurais pu donner davantage. À présent, il te reste la seconde moitié pour te rattraper. Et à partir de ce moment, je m'efforce de rendre plus vivant tout ce qui sera montré sur l'écran. Je vous présente Pamela, me semble enfin lancée sur de bons rails. Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne.
Et la nuit américaine, c'est vraiment le mode d'emploi, c'est comme le jeu de société. C'est comme si on achetait un jeu de société dont on sait que c'est un jeu de société que plein de gens peuvent avoir. Donc il n'est pas super personnel, mais où on va vous dire, voilà la script, voilà donc la script girl, voilà le producteur, à quoi il ressemble, voilà le réalisateur, de quoi ses rêves sont faits de temps en temps, on y a un petit peu accès, une actrice, un acteur. Voilà, ça c'est, il nous a donné les pièces du Cluedo, puisque c'est fait comme une comédie. Je me souviens de Nathalie Baye et de Ménez, je me souviens évidemment de Truffaut, qui joue son propre rôle avec son handicap.
Ouais.
Voilà, un réalisateur, c'est un handicapé. Je me souviens d'une actrice qui est enceinte et ça se voit pas sur le plateau et puis ça va créer une galère.
Alexandra
Je me souviens
Stewart.
Alexandra Stewart. Je me souviens de cette actrice italienne qui arrive avec le poids de sa gloire passée.
Valentina Cortez.
Qui, merci de les citer tous, et qui lui dit « Mais avec Fellini, on faisait comme ça !» Et donc, qui connaît pas son texte et qui est dans un moment du cinéma qui s'est transformé, qui a changé. Et alors là, pour le coup, voilà un réalisateur qui se donne pas le meilleur rôle.
Ouais.
Puisque son film, il s'appelle « Je vous présente Pamela », qui est quand même vraiment quasi ironique sur ce que peut être la prétention que ce cinéaste a du film qu'il va faire. Il prétend pas fabriquer un chef-d'œuvre.
Luca, c'est tu?
Si, sono io.
Cosa fai? Non eri partito?
Ho sentito che avevate un problema con la nebbia.
Ma dove sei?
Qua.
Dove?
Sono qui.
Ce qui est fou avec Valéria Bruni, c'est que tout se mélange avec elle.
Oui.
En fait, elle passe sa vie de cinéaste à se raconter, mais tout en abordant des sujets qui peuvent intéresser les autres. Oui. Mais tout est imbriqué, un peu comme avec Nanni Moretti d'ailleurs.
Oui. Moi j'adore les films de Valeria Bruni Tedeschi. Je suis vraiment de film en film, je les aime vraiment de tous, chacun et pour des raisons différentes. Dans Les Estivants, la scène dont je me souvenais, c'était cette scène d'avant sur recette.
Est-ce que vous avez conscience que votre scénario est fragile ?
Oui.
Oui.
Non.
Et si on vous demandait de le raconter en une phrase, que diriez-vous ?
Ben, ça parle de ma vie. Mon frère est mort il y a 2 ans. Et ça parle d'un frère, d'un fiancé.
La scène d'avant sur recette, ce qui est intéressant, c'est que son mec vient de la quitter.
Ouais.
Elle va devoir aller...
Assurer quand même.
Assurer. Ouais, ouais. Et pitcher alors qu'elle est complètement en désolation. Mais ça, c'est, ouais. Là, ça se comprend vraiment. Et encore une femme qui ne se donne pas le beau rôle, effectivement, comme c'est... Comme,
non, il va falloir qu'il y ait une psychothérapie collective sur la représentation du féminin par les femmes. D'ailleurs, sur l'amour des femmes par les femmes. Les femmes cinéastes sont et derrière la caméra et devant la caméra du côté de l'intime. Hein, donc, c'est des sujets... Mais bon, là, on voit bien avec le corpus qu'on s'est choisi... que c'est quand même assez partagé par des Français de considérer que les cinéastes parlent de leur intimité.
Oui.
Voilà. C'est considéré par les Français. Brissot parlera de ça, Doyon parlera de ça, Ackerman parlera de ça. Les Américains, c'est le gros studio, des crimes, des meurtres. C'est pas que de l'intime. Mais en France ou en Italie, on parlera des cinéastes racontent leur vie privée, leur vie intime.
Quand j'ai proposé à Michel Hazanavicius de participer à cette série, dans ma liste de films sur les cinéastes, il y avait bien sûr les siens. Alors pourquoi ne pas les choisir ? Et du coup, à appeler ce chapitre avec lui, j'étais dans mon film. Oui, Michel Hazanavicius est tout autant dans The Artist que dans Le Redoutable sur Jean-Luc Godard, et même dans sa fantaisie gore coupée. Dans l'ironie, la comédie, le pastiche, Hazanavicius raconte en fait bien des choses sur le cinéma, et sur lui, bien sûr. Je le retrouve dans sa salle de montage. Est-ce qu'il y aurait des films qui vous auraient donné envie de faire ce métier ?
Je pense qu'il y a sûrement dans La Nuit américaine de Truffaut un truc très joyeux, un peu idéalisé, un peu bon enfant. C'est-à-dire c'est le côté, solaire de Truffaut, qui, comment dire, quelque chose qui célèbre le cinéma dans La Nuit américaine, qui est assez réjouissant. Oui, ça m'a sans doute donné envie.
Et en même temps, sur un personnage assez solitaire, en fait, au milieu d'un tournage.
Le film, en tout cas, raconte assez bien ça. C'est-à-dire c'est paradoxalement un endroit, la place du réalisateur sur un plateau, je parle. On est rarement aussi seul en étant autant entouré.
Est-ce que vous avez regardé spécialement le réal Truffaut dans ce film ?
Non, je crois que c'était un truc sur l'équipe, en fait. Ouais. Le film est quand même assez bien partagé, je trouve, sur l'idée que c'est un sport d'équipe. Et donc, ça, c'est, je pense que c'est assez juste. Ça m'a aussi confirmé quelque chose que j'avais pressenti dans pas mal de films, mais je dirais beaucoup dans les films avec Jean-Paul Belmondo, qui est un truc joyeux au quotidien.
Aux femmes ?
Je ne sais pas.
Menteur !
Quand je voyais les films de Belmondo, au-delà de l'histoire, au-delà du truc et tout ça, ce qu'on me transmettait, au fond, j'ai l'impression que c'est un métier joyeux, un endroit où il fait bon vivre, l'endroit du cinéma, quoi. Alors, il y a des films où je voyais. Et ça, c'est arrivé aussi assez jeune, au début de l'adolescence. Je pense notamment au Troisième Homme. Des films où, tout d'un coup, dans la facture, je me disais, il y a quelqu'un qui raconte l'histoire. Il y a quelqu'un qui prend en charge un truc. C'est pas les acteurs qui parlent. Il y a un patron, quoi. Il y a une entité racontante. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup attiré.
Il y a même un film sur l'échec d'un film qui est Lost in La Mancha.
Oui, sur l'échec d'un film, oui, sur la malédiction, la malédiction, ben ça c'est un cauchemar fini. Moi, les premiers films, je sais que j'avais une angoisse infinie que mon acteur principal meure. Non, si je suis tout à fait honnête, c'était par pur égoïsme, en fait. C'était même pas pour lui, alors que mon premier film, c'est Yvon Attal, je l'aime énormément. Ça m'aurait embêté qu'il meure à titre amical. Mais en premier lieu, je crois que je pensais au film. C'est médiocre. Hein.
La nouvelle vague, c'était lui, Jean-Luc Godard. Son seul nom évoquait une certaine idée du cinéma. Inclassable, sauvage, fascinant, drôle, imprévisible, déstabilisant, politique, charmant, impertinent, jeune, libre.
Là, Michel Hazanavicius s'attaque avec le redoutable à la statue du commandeur, Jean-Luc Godard, l'homme cinéma. Ce n'est pas un biopic, mais un film qui raconte surtout le tournant politique dans la carrière de Godard et comment ce génie va se saborder. Mais le redoutable est aussi un film qui choisit de mêler l'intime à la création. Alors oui, on peut raconter Godard et se raconter en même temps.
Bonjour ! Bravo pour la chinoise, hein ! Franchement, j'ai vu avec des amis, on a bien aimé.
Merci.
Non, vraiment.
Bon, bah vraiment merci, alors.
Eh ben, de rien. Sinon, vous allez en refaire comme à bout de souffle, des films comme ça?
Je sais pas.
Parce que là, par contre, c'était bien, ça. Ah non, vraiment, là, c'était impeccable.
D'accord, bah je vous remercie.
Il faut que vous fassiez les films avec Belmondo, il est bon, lui. Il est marrant, en plus. Vous devriez en faire d'autres avec lui.
Ok, et vas-y, penserai alors.
Bon, c'est pas psychanalytique ce que je fais, non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vous.
Dans ah oui, d'accord.
C'est vous dans ce film. À savoir, il y a deux, trois fois dans le film, on vient voir Godard, on lui dit « Pourquoi vous faites plus les films que vous faisiez avant ?» Je suppose que quand vous avez fait The Search, tout d'un coup, vous voyez, il y a un truc de surprise. Donc, vous parlez un peu de vous quand vous faites ces scènes-là.
Ouais, bien sûr. Je me parle de moi, encore une fois. Enfin, sur Le Redoutable, j'ai eu un peu l'impression de mettre un nez rouge, moi. Mais en essayant vraiment de respecter le sujet ou le personnage principal, plus exactement, que j'avais choisi, qui est donc Godard. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai eu l'impression de mettre des choses qui m'étaient très personnelles, mais qui marchaient avec le Godard que j'ai raconté. Oui. Bah, c'est vrai que jusqu'à ce qu'il y ait un OSS 3, on m'a beaucoup demandé quand est-ce que je referais un OSS 3. C'est compliqué d'acheter sa liberté, quoi. C'est-à-dire, c'est compliqué de dire, ouais, mais en fait, moi, là, j'ai pas envie de rire. Donc, j'ai envie de raconter un truc qui est pas drôle parce que, en fait, ça me touche au moment, voilà, à l'instant T où j'ai envie de faire ce film. C'est ça le sujet qui m'intéresse. Donc, j'ai passé les trois prochaines années à fabriquer cette histoire-là. Et comme les gens vous avaient laissé trois ans avant sur une grosse comédie et que vous arrivez à... C'est vrai que ça peut être déstabilisant et qu'il y a toujours cette volonté que vous refassiez un peu toujours la même chose.
Perry a trouvé une solution. Les naufragés trouvent une malle de vêtements de femme et du coup, je serai tout le temps habillée. Seul homme sera nu. D'ailleurs, il te salue.
Oh, quel enculé. Merde alors. Mais tu vas accepter?
Pourquoi pas?
Bah, déjà parce qu'on est censé partir ensemble en Tchécoslovaquie. Oh non, tu vas pas dire oui. Tu vas pas m'abandonner si longtemps. En Italie, moi, en Tchécoslovaquie, c'est absurde. On est mariés quand même.
C'est un premier rôle. Je ne peux pas dire non, Jean-Luc.
Le Redoutable, c'est aussi un film qui mélange l'intime et le cinéma.
Ouais.
Alors, autre parallèle avec vous, vous êtes marié avec une actrice. Godard est avec une actrice qu'il fait tourner. Et puis, c'est un homme très jaloux aussi. Il y a une histoire de ça dans le couple. Jaloux que sa femme actrice tourne avec d'autres. Il y a une identification là ou pas?
Non, moi je suis pas jaloux du tout. Enfin, vous savez, moi je fais un film tous les 3 ans. Elle va pas m'attendre, Bérénice, pour tourner, je sais pas, 6 semaines tous les 3 ans. Mais il y a un truc de possession quand on filme quelqu'un. C'est-à-dire, moi ça m'arrive vraiment. Alors peut-être un peu moins maintenant, mais au début, par exemple, si je tournais avec des acteurs, quand je les voyais dans d'autres films, j'ai, ah, ils ont rien compris. C'est pas là qu'il est bon, le gars. Donc, comme si il m'appartenait. Il y a un acte, filmer un acteur pour un réalisateur. C'est pas un acte que extérieur. on vole ou on capte quelque chose. Il y a un truc de possessivité ouais, qui se met en place.
D'autant plus que c'est sa femme pour le, dans le cas de Godard.
Alors d'autant plus, effectivement, ouais. Parce qu'il y a, et puis surtout dans le cinéma de cette époque-là, les rôles de femmes et les actrices étaient beaucoup des objets de désir. Alors c'est pas le cas d'Anne Wiazemski dans La Chinoise, on est d'accord, il part vers autre chose. Mais quand même, les femmes avaient beaucoup cette place-là dans les films. Aujourd'hui, ça a quand même bien changé. Et puis, il y a un rapport de séduction, toujours sur un tournage. C'est-à-dire que entre une actrice et un réalisateur, une actrice et un chef opérateur, entre deux acteurs, enfin, il y a toujours des rapports de séduction. On est les uns sur les autres sur une période très courte comme ça. C'est souvent des ambiances assez fusionnelles. Donc, oui, quand on est extérieur à ça, il y a, si ce n'est de la jalousie, il y a un sentiment d'être un peu à l'extérieur, ça c'est sûr.
La Chinoise, par exemple, aurait pu être un grand film, celui de la tragédie des ordres inconciliables, du rêve et de la réalité. Malheureusement, c'est qu'une description cruelle, car sympathisante au sens premier, de la bavarde et généreuse flottise des pubertés politiques bourgeoises. Et à la question « comment transformer le monde ? Sur quoi consumer les incendies de sa révolte ?», la Chinoise aurait pu répondre. Et la réponse eût pu être d'une désespérante beauté. Elle reste chez Godard d'une écœurante platitude. On déteste ces bavards, on déteste leurs découvertes niaises, leurs lectures minables et interminables. Bon, bah, de toute façon, là, pour le reste, il y a du même tonneau. Apparemment, il n'aime pas vraiment le film non plus.
Oui, c'est sûr. Mais bon, vous avez quand même des bonnes critiques. Dans les lettres françaises, c'est dithyrambique.
Les lettres françaises.
Mais nous aussi, on t'a fait un beau papier.
Mais le nouvel ordre, c'est pareil. Je veux dire, tout le monde sait qu'on est copains, Michel.
Bah oui, mais ce qu'ils disent, c'est bien. Pourquoi ça aurait moins de valeur que les autres?
Non, mais ça n'en est plus ni moins de valeur. Il faut savoir accepter quand on s'est trompé.
Il y a une scène où il y a une critique très dure, d'ailleurs, Godard. Ouais. Ça vous a traversé l'esprit par rapport à The Search?
Je sais pas si vous avez... Oui. Bah, moi, je me suis, ça m'a permis d'exorciser des choses. Ouais. C'est-à-dire que un des points de départ, c'est que c'est du livre que j'ai adapté, c'est que il croit qu'il a fait un film, il fait un film et le résultat et la critique n'est pas à la hauteur de ses espérances. C'est rien de le dire que c'était ce que je venais de vivre avec The Search, qui est un film qui a été bien défoncé. Il est sans doute pas aussi bon que ce que je croyais, mais il est peut-être pas aussi mauvais que ce qu'on en a dit. Mais bon, voilà, peut-être que ça se situe un peu entre les deux. Toujours est-il que pour moi, c'était compliqué. C'est-à-dire, vous passez du nouveau Orson Welles avec The Artist, ouais, à justement Ed Wood, Max Pécasse et compagnie. Enfin, vous tombez vraiment au fond du truc. Enfin, le choc thermique, il est assez violent. Surtout que ça se passe en 2 heures.
Donc, vous êtes un peu dans le redoutable à différents moments, à différents endroits, non ?
Oui. Et puis moi, j'ai aussi, encore une fois, je me prends pas pour Napoléon, mais oui, je me questionne aussi sur les modes de production, je me questionne sur les modes de distribution. C'est des questions qu'on peut se poser parce qu'on est effectivement quand même... Aujourd'hui, quand vous faites un film, le chemin du film, il est extrêmement balisé. Comment échapper à ça? Comment échapper à un rôle qu'on essaye de vous donner? Comment trouver de la liberté? Ce sont des questions. Après, oui, dans des petites choses, des frustrations, des humiliations, des joies. Effectivement, oui, il y a des choses dans le redoutable qui me sont très personnelles.
Ouais. C'est vrai qu'il est parfois humilié, effectivement.
Ouais, mais on l'est souvent, hein. On l'est souvent. Vous savez, faire un film, finalement, vous dites quoi? C'est comme quand vous êtes à table, mais il y a beaucoup de monde, hein, c'est de la France entière, beaucoup de monde à table. Vous vous levez, vous tapez sur votre verre avec une fourchette et vous dites « j'ai une histoire à vous raconter ». C'est ça que vous faites, hein. Donc quand les gens vous regardent à peine et continuent à bouffer et que votre histoire, vous ne la racontez même pas et vous vous rasseyez, c'est humiliant. C'est ça un film qui ne marche pas, hein.
Il n'y a plus de film excitant. Les acteurs, la lumière, les histoires, tout ça, c'est mort. C'est un cinéma mort, c'est un cadavre, ça me dégoûte. Je peux plus faire ce cinéma, j'aurai l'impression de faire l'amour à une morte.
Mais enfin, arrête, Jean-Luc, t'es ridicule. Tu vas pas, toi, arrêter de faire du cinéma à cause de 3 cons. Je suis entièrement d'accord. C'est toi qui as du talent, pas eux. C'est toi, Godard.
J'ai arrêté de me dire que je suis Jean-Luc Godard. Je suis pas Jean-Luc Godard. Voilà, il existe pas ce Jean-Luc Godard dont vous parlez. Moi, je fais semblant d'être Godard. Oui, je suis un acteur qui fait semblant d'être Godard. Un acteur même pas vraiment super terrible.
Je pense que ce métier peut devenir... Bon, alors après, là, moi, je rentre dans une théorie qui est peut-être un peu fumeuse, mais Non, c'est-à-dire, je pense que le cinéma fonctionne à peu près comme une religion. Une religion polythéiste, certes, mais comme une religion. À savoir que ça marche sur la croyance. On va dans une espèce de temple, on lève la tête, il y a ces espèces de vitraux animés qui marchent, qui nous racontent des histoires exactement comme dans les histoires de la Bible, c'est-à-dire des histoires qui sont faites pour nous connecter les uns et les autres et dire... Voilà, on est ensemble, on vit tous ensemble les mêmes choses, etc. Ce qui était le rôle social de la Bible. Et quand on fabrique du cinéma, je pense qu'on se met inconsciemment ou consciemment... à la place de Dieu, oui. Et quand vous écrivez un scénario, vous mettez extérieur jour, une rue de Paris, vous créez la lumière et vous créez l'espace. C'est réellement ce que vous faites. Alors en fait, vous ne faites pas du tout tout ça, vous faites juste du divertissement. Mais vous pouvez croire que vous faites tout ça. Une équipe de tournage qui est en repérage, s'il pleut, vous verrez qu'ils ne ils vont pas discuter à l'abri. Ils vont discuter sous la pluie. Alors, pas s'il y a un énorme orage, mais en fait, ils s'en foutent. Parce qu'en fait, quand on est des dieux, on craint pas la pluie. On n'est pas. Vous pouvez demander des choses à des acteurs ou à des assistants qu'ils ne feront jamais dans la vraie vie, mais jamais dans la vraie vie. Mais au cinéma, on le fait parce qu'on est dégagé de la pesanteur terrestre, parce qu'on est un petit peu des demi-dieux. Quand on y croit un tant soit peu, on peut devenir dingue. Il y a ce truc un peu destructeur de dire, soit destructeur, soit carrément omnipotent, quoi, de dire je veux, au moins il me faut que ma salle de montage soit peinte en rose, sinon j'y arrive pas. Bon, le lendemain, vous avez un gars qui vient peindre en rose, quoi. Et puis, vous demandez à un acteur, vous lui dites, écoute, je voudrais que tu fondes en larmes, que tu t'exploses là. Il va le faire, en fait. Donc, le pouvoir que vous avez sur les gens, il est anormal.
C'est quoi le genre de film que vous faites ?
Bah, j'ai fait plein de choses. Des publics reportages, des reconstitutions, des films d'entreprise, un épisode de série, un docu sur la French Touch, plein de trucs.
Il y a aussi
des trucs pour le net.
Ah, et le net.
Et ta devise, c'est quoi ?
Ma devise, rapide, pas cher et dans la moyenne.
Parfait, Madame Matsuda pense que vous êtes la bonne personne.
C'est vrai.
Un réalisateur dans le creux de la vague, Rémi Bouillon, c'est Romain Duris, accepte une commande farfelue venant d'une productrice japonaise. Réaliser un film de zombies en direct, c'est Coupé, le remake du film japonais qui s'appelait, lui, Ne coupez pas. Apparemment, on est loin de l'autoportrait, Hazanavicius et son Oscar, face à ce Bouillon, mais encore une fois, derrière ce contre-exemple, voilà une belle occasion pour le cinéaste de raconter deux, trois vérités sur le métier, et au bout du chemin, prouver 1) que le cinéma est un organisme vivant, et 2) rendre hommage aux travailleurs de l'ombre.
Il y a plein de manières d'être réalisateur, hein. Il y a plein de, on peut être réalisateur de plein de choses, pas forcément de films et pas forcément de films glam et tout ça. Moi j'ai fait réalisateur à la télé où j'ai réalisé, je sais pas, des sacs cartoons, des trucs comme ça. Bon, je veux dire, ça faisait pas la une des journaux. Hein.
Donc lui, c'est un peu vous quand vous faisiez ça.
Oui, en tous les cas, enfin, c'est quelqu'un qui a pas une ambition folle.
C'est amusant de désacraliser justement ça, désacraliser un tournage, désacraliser le cinéma à travers ce film de genre dans le genre.
Alors, ça le désacralise, mais ça l'héroïse dans le même temps. C'est-à-dire qu'en gros, le film, s'il devait être résumé comme ça, en quelques mots, il raconte l'histoire d'une équipe de bras cassés. Ils sont tous pas plus mauvais les uns que les autres, mais je veux dire, ils font vraiment un film qui, au final, n'est pas très bon. C'est le constat de départ du film. Le film n'est objectivement pas très bon. Mais en fait, ce qu'il raconte aussi dans un deuxième temps, c'est que même si c'est des bras cassés, même si le film n'est pas très bon, ils sont ensemble et ils forment une équipe et ils créent un collectif. Et ça, finalement, c'est beaucoup plus beau que le jugement qu'on peut porter sur le film qu'ils ont fait ou sur leurs valeurs individuelles. Le groupe vaut beaucoup plus que l'addition des individus.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je crois qu'on est tous là. Tout le monde a fait connaissance, on va pouvoir commencer, si vous voulez bien. Je voulais vous dire, je suis très heureux de vous voir tous. Je suis hyper content pour ce projet spécial, atypique, risqué, certes. D'ailleurs, merci Madame Matsuda d'être là. Arigato.
Merci beaucoup.
Il n'y a pas de quoi. Et bon, je crois que ça va être génial. Enfin, disons que ça peut être génial. Non, je suis sûr que ça va être génial.
Le type est super enthousiaste, quoi. Vraiment, c'est un moteur. Il y a un peu de vous là-dedans. Bouillon, c'est un peu vous sur un plateau aussi.
Alors oui, alors le fait d'abord de courir tout le temps, c'est un peu, même si on se déplace pas physiquement toujours en courant, en fait, votre rythme cardiaque, c'est un peu de courir tout le temps. Enfin, vous êtes tout le temps en train de courir après le temps, après le truc, trouver des solutions, trouver des trucs, etc. Donc vous êtes, enfin, moi, je suis un peu speed comme ça. Ouais, je pense qu'on a cet enthousiasme de se dire non, mais c'est pas grave, on est, voilà, il faut y aller, coûte que coûte. Alors, plus on a préparé ou mieux on a préparé notre tournage, moins on est obligé d'avaler des couleuvres. Mais au final, de toute façon, vous êtes embarqué dans un truc qui va à 200 à l'heure. Vous pouvez pas arrêter en disant ah, oulala, on reprend tout, on va faire ça bien demain et tout ça. Enfin, moi, en tous les cas, les films, les économies de films dans lesquelles j'ai travaillé, vous pouvez pas vous permettre ça. Et donc, du coup, oui, il y a toujours ce truc de démerde, de dire non, mais on fait avec ce qu'on a. De toute façon, oui, bon, ça, c'est pas génial, mais c'est pas grave, on va trouver. Donc, bon, lui, il en avale quand même pas mal des couleuvres.
Mais vous êtes vachement plus jusqu'au boutiste, carré, vous voulez arriver à une certaine forme de perfection dans l'humour, le timing. Lui, c'est pas vous de ce point de vue-là, quoi.
Non, c'est pas un autoportrait. Non. Moi, j'essaye de bosser au maximum de ce que je peux. Ouais. Mais vous avez quand même toujours l'impression, surtout sur un plateau, parce que, et puis, alors lui, le pauvre, c'est qu'il n'a pas de montage, hein, c'est qu'il est en direct.
Oui,
donc, franchement, n'importe quel tournage, si on devait tourner en direct, ça ne donnerait pas les mêmes films. Hein.
Ça ne dérange pas si on parle un peu du scénario ?
Ah non, bien sûr, Raphaël.
Non, parce qu'avec Lars, on bossait tout le temps, tu vois, sur le scénario pour essayer d'amener un truc en permanence.
Ok. Et ?
Ouais, je ne suis pas fan de la hache. Tu vois, le principe des zombies, c'est qu'ils n'ont pas de volonté, donc... Je comprends pas trop qu'ils se servent d'une hache, c'est un contresens pour moi, tu vois, un zombie peut pas avoir une hache, ou alors il a de la volonté, mais dans ce cas-là, c'est pas un zombie.
Ah ouais, c'est intéressant.
Ouais, le zombie, c'est la déshumanisation, c'est ça qui terrifie le spectateur. Donc j'ai l'impression que d'un seul coup, la hache, ça les réhumanise, ils font beaucoup moins peur.
Tu veux dire moins peur avec la hache?
Ouais.
Ah, c'est intéressant.
Bah ouais.
En revanche, il y a l'ego de l'acteur qui est à mourir de rire, qui revient 3-4 fois. Ça, c'est des petits messages comme ça, envoyés comme ça. Bon, ok, c'est un remake, c'était sans doute dans le film original. Mais c'est très drôle, quoi, tout d'un coup. L'acteur qui critique tout, quoi, qui remet tout en question.
Ouais, mais... bah après, hein, ouais, bien sûr. Alors, ça m'est arrivé, pas forcément toujours avec des acteurs, d'ailleurs. Les acteurs, ils ont quand même des bons égos, mais on a tous des bons égos. Hein. Non, mais des fois, ça peut être... pas forcément un acteur, ça peut être un technicien. Des fois, c'est quand même des métiers où quand vous faites un pas de côté, on est du plus haut ridicule. C'est dérisoire puissance 1000, quoi.
Madame Matsuda attend le retour des auteurs originaux, mais elle pense que vous avez pris un peu trop de liberté et que certaines choses deviennent incompréhensibles et d'autres lourdingues.
Lourdingues, oui, c'est intéressant. Mais justement, l'idée, c'était pour qu'on comprenne mieux, au contraire. Vous savez, le public français n'est pas trop habitué à ce genre de film. Il y a des trucs, des fois, il faut se méfier. Les Français sont pas toujours au même niveau que les Japonais. Ne serait-ce que sur la hi-fi, par exemple.
Sur la hi-fi, là, t'es pas plus con. Tu crées des problèmes, là.
Mais non, je crée pas des problèmes. J'essaie de résoudre les problèmes, justement, pour qu'on comprenne mieux l'histoire.
Non, mais attends, on s'en fout de l'histoire. Putain, les Japonais, on fait comme ça, on fait comme ça.
Les Japonais, faut rater avec les Japonais. Et ils ont pas fait que des trucs bien, les Japonais. Ils ont fait Pearl Harbor aussi, les Japonais.
Ça a dû vous arriver, des producteurs qui s'écrasent devant
oui,
l'argent.
Oui, bien sûr, devant l'argent ou devant le pouvoir, ou bien sûr. Par exemple, un truc qui est un grand classique, c'est d'attendre que le patron ait parlé. Puis une fois que le patron ait parlé, ouais, non, mais on est d'accord. Il aurait dit le contraire, on aurait eu la même réaction, ouais, on est d'accord. Mais des gens qui applaudissent après ou qui critiquent après, oui, ça j'en ai vu des kilos. Et oui, des gens qui, à un moment donné, auraient pu vous défendre, et en fait, qui vous défendre, vous, votre travail, enfin, et qui prennent le vent. Des gens qui prennent le vent, il y en a beaucoup, beaucoup. Bah, lui, c'est un gars qui prend le vent, ouais, de manière un peu spectaculaire.
C'est drôle parce que les trois films choisis, bon, qui sont les vôtres, hein, The Artist, quoi, Le Redoutable, Coupé, The Artist, c'est un peu trois losers magnifiques en même temps. Vous voyez, c'est drôle de faire des autoportraits en losers magnifiques.
Pour moi, c'est, encore une fois, c'est pas des losers, ils sont héroïques. Les trois sont héroïques.
Pour un type qui fait vachement d'entrée, comme vous avez... Vous voyez ce que je veux dire ?
Ouais.
Qui a cette filmo-là, tout d'un coup, vous faites trois portraits. Un qui passe du mieux au parlant, qui n'y arrive pas. Un autre qui fait sa chinoise, qui a plus de succès, alors qu'il a été encensé. Et le troisième qui s'en sort en faisant un petit film de genre.
Oui, mais en fait, je crois que j'ai toujours des structures d'histoire qui sont un peu similaires ou qui obéissent un petit peu au même schéma, qui est que... Pendant qu'ils perdent quelque chose aux yeux du monde, ils gagnent quelque chose à titre personnel. Finalement, en parlant là avec vous, j'ai l'impression que les trois participent un petit peu de la même idée, à savoir, vous pouvez penser que mon film est une merde, vous pouvez penser que machin, etc. Mais en fait, moi, j'ai trouvé mon compte quand même. Et c'est un truc de où il y a eu un endroit où j'ai été héroïque, où il y a eu un endroit... Je parle de mes personnages, mais sans doute un peu de moi aussi. Mmh. Il y a ce truc-là, c'est-à-dire que le jugement extérieur d'un film... Ce n'est qu'une partie de la séquence, quoi. C'est-à-dire le jugement critique qu'on peut faire sur un film ou le jugement même devant l'histoire, de dire « Ah, bon, c'est une merde. » Bon, ok, mais ce n'est qu'une partie de la séquence de ce film. Il y a une fabrication, il y a eu un moment où on y a cru, il y a eu un moment où on y a tous cru, collectivement, une équipe. Il y a eu un moment où on a donné tout ce qu'on a pu, où on a fait... Ça a aussi de la valeur dans votre quotidien, ouais. Ça, ou dans votre vie, enfin, je veux dire, puisque c'est de ça dont on parle, ça a au moins autant de valeur que le jugement qui peut être fait du film, c'est-à-dire le jugement extérieur, j'allais dire esthétique, ou qui est un jugement de valeur, en fait. Vous mettez la vérité de votre vie là où vous avez envie, en fait. Et que ce soit The Artist, Le Redoutable, je vous dis, pour moi, l'histoire du Redoutable, par exemple, c'est quand même quelqu'un qui trouve le chemin de sa liberté. Ouais. En ça, il est héroïque, parce qu'il le fait... envers et contre tous, quoi. Et il sacrifie énormément de choses à l'autel de sa liberté. De la même manière, celui de Coupé, oui, il a fait une merde, c'est indéniable, mais est-ce que c'est le plus important? La structure du film nous montre que non, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'il a réussi quelque chose, et il a reconquis finalement, si ce n'est l'admiration, en tous les cas, il a reconquis de la dignité. En fait, c'est aussi des gens qui se battent pour leur dignité, quoi, d'une certaine manière.
C'est un film, tu vois, c'est juste un film, on s'en fout, t'inquiète. Rapide, pas cher, et dans la moyenne, pas vrai?
T'as raison. On supprime le plan de grue, on va partir 10 pieds d'avant, et puis on reculera, et... pour cadrer au mieux qu'on peut l'étoile, quoi. Puis, générique de fin.
Voilà, c'était J'étais dans le film. Merci à David Leprince, réalisateur de cette série, à Caroline Prota pour la préparation. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à rencontrer mes protagonistes. Emmanuel Leclerc, Victor Dolande, Ophélie Vivier, Fabien Cazot, Vincent Aldeano Gallimard, Rosanne Harris. Et merci vraiment à tous mes acteurs de la vraie vie qui m'ont permis de regarder le cinéma avec d'autres yeux.